Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Bonjour Xavier.
Rebonjour Émilie.
Des enjeux consacrés ce matin à l'Afghanistan et à des négociations de paix qui s'étirent dans le temps.
Oui, des négociations de paix dont nous allons parler avec Karim Pakzad. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone sitôt. Karim Pakzad, vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Afghanistan et vous avez enseigné à l'université de Kaboul. Vous y retournez d'ailleurs encore, vous y étiez cet été. Alors 10% seulement de la population, c'est ce que contrôleraient les talibans selon le chef des forces de l'OTAN en Afghanistan, le général américain John Nicholson, qui l'annonçait vendredi dernier. Selon lui, le gouvernement de Kaboul contrôlerait 65 à 70% de la population. On va pas discuter tout de suite du mot contrôle, reste que 10% ou autre chose. 20 ans après la prise de Kaboul, les talibans apparaissent toujours comme une force incontournable en Afghanistan. Ils sont apparus au beau milieu de la guerre post-URSS et puis cette force qui était armée par le Pakistan a su aujourd'hui s'imposer à la fois militairement et elle n'a pas renoncé à ses ambitions politiques. D'où cette impression de statu quo, dit encore le général américain. Alors il y a des évolutions réelles, notamment de nouveaux acteurs internationaux, surtout la Chine qui fait pression pour des négociations de paix qui avaient commencé l'année dernière. Ces négociations sont désormais bloquées et comme chaque année, les talibans se sont lancés dans une grande offensive de printemps, donc avant l'été. 3 offensives importantes ont été repoussées cette année, pas moins de 16 attaques sur la capitale Kaboul elle-même. Donc, pour résumer, 15 ans de guerre depuis l'intervention américaine, presque 40 années ininterrompues si l'on part de l'invasion soviétique. Sans victoire militaire possible, peut-être la situation politique peut-elle donc évoluer? Que peut réellement le gouvernement d'Ashraf Ghani, Karim Pakzad? Quelle légitimité peuvent espérer les talibans et que peut-on attendre des nouveaux parrains? Peut-être une appréciation générale pour commencer sur cette impression de statu quo qu'évoquait le général John Nicholson. Vous diriez la même chose après, disons, 20 années de présence talibane?
Oui, je crois que vous avez évoqué les points essentiels de la situation. Moi, je retiens deux choses. Si je peux qualifier, résumer la situation, c'est d'abord la guerre, ensuite l'impasse. La guerre, c'est qu'aujourd'hui, en Afghanistan, maintenant, la guerre dure depuis presque 40 ans, mais depuis 20 ans, à partir du moment où les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul, il y a 20 ans, la guerre dure et la guerre que nous avons connue ces derniers temps, où la France a été également engagée dans le cadre de l'OTAN en Afghanistan, à partir de l'intervention américaine fin 2001, suite aux attentats terroristes sur New York et Washington, ça fait bientôt quasiment 15 ans. Or, la guerre dure, mais la guerre n'a pas la même forme que lorsque l'OTAN était engagée en Afghanistan avec plus de 100 000 soldats et avec des armements lourds et de l'aviation. Aujourd'hui, on a l'impression que, notamment dans la presse mondiale, que rien ne se passe en Afghanistan, qu'il y a un statu quo, alors que la guerre vraiment est présente dans la vie quotidienne de l'ensemble des Afghans sur l'ensemble de territoire.
Et justement, on va dire un mot de ces combats dans quelques minutes, mais je voudrais juste vous interroger sur une chose. Vous disiez l'impasse, la guerre, c'est vrai, mais il y a quand même eu une nouvelle pas inintéressante tout récemment, dimanche dernier, ou la semaine dernière plutôt, on apprenait qu'un accord de paix avait été signé avec un des principaux chefs de guerre du pays. Alors, c'est pas un chef taliban, cependant, il dirigeait le Hizb Islamia, qui est quand même la deuxième faction du pays, faction très importante pendant la guerre. C'est lui qu'on a appelé le boucher de Kaboul parce qu'il a bombardé la ville en 1992. Et cependant, donc, ce chef Gulbuddin Hekmatyar, il a signé avec le gouvernement récemment un accord de paix. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est un accord plutôt avantageux pour lui d'ailleurs.
Oui, évidemment, vous avez bien souligné. Il a été qualifié comme boucher de Kaboul. C'était l'un des principaux responsables de la guerre civile à Kaboul et de la destruction de Kaboul qui a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes. Or, par la suite, Hekmatyar était entré en conflit non seulement avec ses rivaux des partis Tajik, Azbak et Hazara, mais également avec les talibans. Et à la suite de cet événement, Gulbuddin Hekmatyar se trouvait isolé en Afghanistan. Il avait perdu également le soutien du Pakistan, qui était son parrain, et le soutien des États-Unis, qui également le soutenait pendant la guerre contre l'Union soviétique. Hekmatyar se trouvait donc isolé. À un moment donné, il était réfugié en Iran, mais par la suite, il est revenu en Afghanistan d'une vallée à l'autre, isolé, et il ne pesait pas grand.
Et il a été contraint presque à signer cet accord à cause de cet isolement.
Il a été sur la liste noire des personnalités terroristes par les Nations Unies, par les États-Unis, mais ce qui est à souligner, que cet accord signé entre le gouvernement afghan, notamment avec l'impulsion de Ashraf Ghani, le président de la République, c'est également le signe de l'échec des négociations avec les talibans.
Et alors précisément sur ces négociations avec les talibans, je l'ai dit, elles avaient commencé l'année dernière en 2015, elles ont été interrompues en mars à l'initiative des talibans. Aujourd'hui, on a vu que les offensives ont repris, il y a même eu des offensives très importantes dans le sud, contre lesquels le gouvernement a dû se battre. À quoi est-ce que ça correspond? Est-ce que vous diriez que cette année précisément, à l'issue presque d'une année de négociation, il y a aujourd'hui une volonté des talibans de reprendre une partie du territoire pour peser, ou alors simplement d'arrêter les accords, d'arrêter les pourparlers?
En fait, ces négociations avaient été commencées à partir d'un changement à Kaboul. Lorsqu'il y a un nouveau gouvernement déformé et Ashraf Ghani comme président de la République, Ashraf Ghani était partisan d'une négociation avec les talibans. Et c'est la raison pour laquelle il a pris l'initiative de se rapprocher de Pakistan, donner beaucoup d'assurance aux Pakistanais. Et c'est la raison pour laquelle les négociations ont débuté pas directement entre Kaboul et les talibans, mais dans le cadre des pourparlers quadripartites entre Kaboul, Islamabad, la Chine et les États-Unis.
Et qui pourparlers qui se tenaient au Pakistan d'ailleurs, oui.
Absolument, qui se trouvaient en lieu au Pakistan pour préparer ces réunions. Mais le problème, il y avait deux problèmes. D'abord que les talibans se trouvaient dans une position de force sur le terrain, et donc leurs exigences à mécontenter l'autre partie du gouvernement afghan, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Ashraf Ghani était favorable à ces négociations, son partenaire de pouvoir, Dr. Abdullah Abdullah, et les partis qui composent, la majorité des partis qui composent son administration, étaient opposés à faire des concessions majeures vis-à-vis des talibans. Or, ces deux éléments ont fait que ces négociations ne sont pas allées au bout.
Donc les talibans ne sont pas tout seuls à avoir rompu les négociations, c'est un peu ça que vous nous dites?
Oui, en fait, les exigences des talibans, notamment leur demande de départ préalable des soldats étrangers. Vous savez qu'il y a encore, selon un accord bilatéral entre l'Afghanistan et les États-Unis, il y a encore 13 000 soldats américains qui sont en Afghanistan. Or, les talibans demandaient leur départ de préalable avant d'engager des négociations avec les Kaboul.
C'est ça a toujours été leur revendication. En effet, et Barack Obama, lui, a annoncé qu'il maintiendrait 8 400 soldats américains, je crois, jusqu'à la fin de son mandat. Alors, dernière chose, il nous reste moins d'une minute, on va très vite, mais est-ce que vous voyez aujourd'hui, disons, un espoir ou une possibilité de peser pour reprendre les négociations ou alors, disons, stabiliser le pays avec cette intervention de la Chine? On parle de l'aide militaire. On voit que la Chine a promis une aide, qu'elle soit militaire ou policière, au début de l'année. On peut en attendre quelque chose diplomatiquement ou militairement, voire économiquement, puisqu'on sait qu'il y a des investissements énormes dans la région.
Et surtout l'Inde qui revient dans le jeu. Il y a 15 jours, l'Inde a accordé 4 milliards de dollars d'aide en Afghanistan, ce qui va compliquer encore davantage la situation parce que cela susciterait la colère des Pakistanais. Moi, je crois que tant que les Américains, l'ONU, la communauté internationale n'arrivent pas à convaincre le Pakistan de faire pression contre les talibans pour les amener à la table des négociations, il n'y aura jamais des discussions de paix directe entre Kaboul et les talibans.
Eh bien, écoutez, c'est dit. En tout cas, on va continuer à suivre ça. Merci beaucoup, Karim Pakzad. Je le rappelle, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Afghanistan.
Et merci à vous, Xavier Martinet. Demain, les enjeux internationaux seront consacrés à la République démocratique du Congo.
Et oui, avec ces violences pré-électorales cette fois.